I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Microsoft, c'est des petits filous qui préparent bien leur coup. Et on va aussi parler de Callisto Protocol, de A Little to the Left et de plein d'autres choses dans l'émission d'aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu, c'est l'épisode numéro 271. Nous sommes en décembre 2022, je suis Patrick Béja et je remercie très chaleureusement le nouveau patriote qui a rejoint la grande famille merveilleuse, chaleureuse, Jonathan. Jonathan Droesch. Alors comment on lit ce nom à votre avis? D-R-O-E-S-C-H. Droesch. Jonathan. On va dire Mr. J.
Moi, je dirais Droesch, moi. Mais...
Droesch, très bien. Bah, écoute, Jonathan, tu peux nous dire comment on prononce ton nom et je le ferai plus dignement au prochain épisode. Jonathan Droesch qui nous a rejoint, ainsi que le producteur de cet épisode, le vaillant Urgar. Urgar, qui me fait penser au nom de barbare que je prends à chaque fois que je fais un nouveau personnage dans Diablo. C'est genre Chrome, Grom, Urg, Berg. Eh bien, Urgar, c'est notre producteur, c'est certainement le dieu des barbares de Diablo ou quelque chose du genre. Merci à vous deux et merci à tous les patriotes qui soutiennent cette émission, qui nous permettent de nous retrouver toutes les semaines avec différents invités. Aujourd'hui, vous l'avez entendu, il n'était pas là la semaine dernière parce qu'il était genre en vacances, un truc, il prenait du temps pour lui, les trucs inacceptables, quoi. Mais il est là cette semaine.
J'étais à Londres pour le travail.
À Londres pour
c'était
le
travail. Ouais, voilà.
C'est ce qu'on dit. Hein.
Parce que j'ai appelé du bon temps. Bon. Voilà. J'ai quand même visité Londres un petit peu by night avec les décorations de Noël. C'est très joli.
Quand même. Donc c'est Jika qui même. Est là avec nous. Bonjour Jika.
Ouais, que ça va?
Tu vas bien? Ça se passe fait, toujours bien chez Nvidia?
Oui, tu vois, Nvidia sont des excellents partenaires, donc tu peux tout à fait
mais
dire.
Parce que je vois
chez Asus, je travaille
c'est
chez Asus.
Oui, okay. Oui. Mais tu sais, Asus et Roger, je pense que c'est je pense que toujours à...
Tu m'aurais dit, ça se passe toujours bien, c'est chez Acer, tu vois, là j'aurais été un peu plus embêté. Mais bon, Nvidia, il n'y a aucun souci. Tout va très bien, tout va très très bien, donc voilà, tout va bien. Je m'épanouis, on va dire.
Tu t'épanouis, merde.
Et merci de m'accueillir parce que comme je disais, j'étais pas censé venir en fait et j'ai vraiment tape plein cruse parce qu'il y a tellement de jeux qui sont sortis ces derniers temps, c'est tout bonnement incroyable en termes de quantité et de qualité. Je me suis dit allez, j'ai vraiment envie de parler de tout ça, donc je t'ai envoyé un petit message gentiment vraiment pour taper l'incruste quoi. En tout cas, c'est gentil de m'accueillir.
Tu es ici chez toi, Jika. Tu es ici chez toi. Tu viens absolument quand tu veux. Et je suis en plus assez curieux d'avoir ton avis sur notamment Callisto Protocol, parce que les avis sont très partagés sur Internet.
Ouais.
Et donc, bon, ouais. On va en parler tout à l'heure. Je ne vais pas déflorer la conversation. On en parlera tout à l'heure. Et l'autre voix également délicieuse, tout aussi délicieuse que vous avez entendue, c'est celle de Maïté Escarina Cordoba.
Merci pour tous ces compliments, je ne m'en lasse pas. Ça fait toujours plaisir. Eh bien, écoute, moi aussi, je suis très contente d'être là.
Très heureux de t'avoir. Je crois que le don de famille est officialisé hein, maintenant. C'est absolument indétachable. À moins que tu me dises que tu n'en veux pas. Hein, mais bon, voilà.
Non, ça me va.
C'est en fait ton identité secrète quand tu viens dans le rendez-vous jeu. Pour pas qu'on te reconnaisse, tu rajoutes un nom, on te rajoute un nom déguisement. C'est au lieu c'est de t'appeler ça. Juste Escarina, tu t'appelles Escarina Cordoba. Bon.
Pourtant, j'assume ce podcast beaucoup plus que tous les autres. Hein, donc j'ai moins de raisons de me cacher ici qu'ailleurs. Donc
c'est pas faux. Un jour, on découvrira pourquoi ce nom est venu s'ajouter. On ne sait pourquoi et tu ne me l'as pas dit pendant genre 3 ans.
ça va être de ma faute, tiens.
Bon, mais il faut avouer que ça fait quoi, 3 ans que je t'appelle Cordoba ?
Il va falloir remonter dans les archives de Google.
J'ai trouvé ce truc. Bon, bref. Bref. Est-ce que vous voulez encore un petit peu parler d'alcool comme vous le faisiez avant qu'on lance l'enregistrement ou on parle de jeux vidéo ? C'est vous qui choisissez. Hein.
Non, à moins qu'on ait un jeu qui mélange l'alcool et jeux vidéo, enfin quelque chose comme ça.
Il y en a, hein. Il y en a un simulateur de brasserie.
Il y a bière, oui.
Ouais, bière factory.
Oui, ça, je m'en rappelle très bien. Un truc allemand, je me rappelle, un truc de Oktoberfest. Non, mais c'est vraiment, je crois qu'on l'avait testé dans Joystick à l'époque. C'était un jeu où tu gérais l'Oktoberfest en Allemagne.
Ah oui.
Et ça avait l'air fou, ça avait l'air absolument incroyable.
Mais il y a un jeu.
Il y a eu un simulateur de brasseur là qui est sorti il n'y a pas longtemps. Oui, Brewing Simulator, ou je ne sais plus comment.
C'est ça, ouais. Brewing Simulator, ou un truc qui doit sortir bientôt. Mais bon, dans ce cas, on va peut-être parler d'autre chose. Pour les discussions alcoolisées sur l'alcool, vous pourrez les retrouver dans Super Gamerside ou dans ZQSD.
Voilà.
Des podcasts qui le font très, très bien et mieux que je ne pourrais.
Dans ZQSD, on parle pas d'alcool, on en boit, mais on en parle assez peu. Hein.
Disons que c'est dans le contexte.
On entend des bouteilles s'ouvrir, voilà, c'est ça. On entend surtout des capsules s'ouvrir.
Brewmaster Simulator, c'est ça. Eh bien ici, aucun décapsuleur et simplement du jeu vidéo. Et on va commencer avec une info qu'on doit retenir cette semaine. L'info de la semaine, c'est, comme je le disais en pré-générique, Microsoft, c'est des petits filous quand même. Hein. Ils sont malins, ils gèrent les choses et ils ont réussi un tour de force qui fait que ma prédiction, c'est que d'ici demain, la FTC, la Federal Trade Commission, va annoncer qu'elle approuve le deal entre Microsoft et Activision Blizzard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous vous souvenez évidemment que Microsoft, l'une des plus grosses sociétés de jeux vidéo au monde, a annoncé son intention de racheter Activision Blizzard, une autre des plus grosses sociétés de jeux vidéo au monde, pour la somme rondelette de 69 milliards de dollars. C'était en début d'année et ils espéraient que le processus prenne environ un an, un petit peu plus d'un an. Pourquoi aussi longtemps ? Parce que quand ce type de deal se fait, il y a des autorités de surveillance de la concurrence qui peuvent jeter un coup d'œil au deal pour voir si ça pose des problèmes de concurrence dans chaque pays du monde, en fait. Bon, en réalité, il n'y en a que quelques-uns qui s'en saisissent vraiment. Et l'Union européenne et l'Angleterre s'en préoccupent depuis un certain temps. Mais la chose la plus importante qui s'est produite ces dernières semaines, c'est qu'il semblait que la FTC, la Federal Trade Commission, qui est l'autorité américaine, veuille faire un exemple un petit peu de Microsoft dans les GAFAM, pour ce rachat-là, qui est un gros rachat, même s'il ne touche pas à l'activité tech, qui est donc l'industrie pour laquelle on trouve généralement qu'il y a eu trop de rachats autorisés et un petit peu trop de laxisme au niveau de ces, de la surveillance effectuée par ces autorités comme la FTC. Et pendant tout ce temps, Microsoft était assez silencieux, assez passif même. J'étais un petit peu surpris de constater que il disait oui, on a proposé des choses, mais on se rend bien compte que les autorités vont faire leur travail, on travaillera avec eux, mais ils n'étaient pas vraiment sur l'offensive, alors que pendant ce temps, Sony, qui est bien sûr non pas menacé, mais qui risquerait d'avoir moins de force dans l'industrie relativement à Microsoft, si Microsoft grossit encore, alors que Microsoft est bon troisième parmi les constructeurs, et peut-être plus loin encore si on compte tous les types d'activités et toutes les sociétés dans cette industrie, y compris les Chinois. Et Microsoft était passif. Eh bien, le scénario s'est déroulé en fait cette semaine avec une série de 1-2-3 punch qui ont été assénés par Microsoft de manière politique extrêmement intelligente. Ce qui s'est passé, c'est que, d'abord, le président du CWA, l'un des plus gros syndicats de la tech, des syndicats de travailleurs de la tech aux États-Unis, qui est par extension aussi un syndicat pour le jeu vidéo, et je précise, je parle de syndicats parce qu'aux États-Unis et dans le monde, les travailleurs du jeu vidéo commencent à réfléchir à la possibilité de créer des syndicats et de se syndiquer. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus important parce que le droit du travail est beaucoup plus lax aux États-Unis et donc les employés, en particulier du secteur du jeu vidéo, sont vraiment laissés à eux-mêmes face aux employeurs. Et ils n'ont pas d'assurance santé, ils n'ont pas d'assurance chômage, etc., etc. Donc, encore plus qu'ailleurs, aux États-Unis, le fait de se syndiquer et d'avoir une force de négociation collective avec les entreprises pour lesquelles ils travaillent est vraiment important. Et ce mouvement commence un petit peu à s'initier timidement. Or, sentant le vent tourner, Microsoft a annoncé en début d'année qu'ils allaient avoir une attitude neutre par rapport aux syndicats. Qu'est-ce que ça veut dire, une attitude neutre? Ça veut dire qu'ils sont ni pour ni contre. En gros, ils respectent la loi, ils ne vont pas interférer avec... C'est incroyable, hein. Ils respectent la loi et n'interfèrent pas avec les initiatives de syndicalisation des employés dans leur société aux États-Unis. Et suite à ça, il y a effectivement différentes choses qui se sont passées, mais la dernière en date, c'est que le président de la CWA, Chris Shelton, a écrit... sur le site The Hill, qui est une publication à destination de Washington, on va dire, des autorités de Washington, il a écrit un op-ed, un éditorial d'opinion, sur le fait que la FTC semble se diriger vers un blocage du deal, alors que, d'une part, le deal ne fait véritablement de mal à personne, contrairement à ce que dit Sony, et surtout, Microsoft est l'une des sociétés les plus syndicat-friendly aux États-Unis et que, dans ce contexte, il serait extrêmement dommageable pour le bien-être des travailleurs, des employés de ces sociétés, que la FTC bloque ce rachat parce que ça accroîtrait l'influence de Microsoft dans cette industrie et Microsoft qui est, on va dire, beaucoup plus facile à gérer pour les syndicats que les autres sociétés qui s'y opposent de manière à peine voilée et qui font ce qu'on appelle du union busting, c'est-à-dire des réunions pour expliquer aux gens que les syndicats, ça les affaiblit en fait plutôt que ne les renforce, etc., ce genre de choses. Donc, le président de cet énorme syndicat qui vient dire en fait aux décisionnaires de Washington « ne bloquez pas ce deal parce que c'est un truc qui est bien pour les employés », c'est déjà un truc très fort. Dans la foulée de ça, il y a un autre groupe d'employés de Activision Blizzard qui forme un syndicat. C'est ZeniMax. C'est des employés du support technique du Quality Assurance de ZeniMax qui votent pour faire un syndicat, pour créer un syndicat sous Microsoft, ce qui est extrêmement difficile dans les autres sociétés. Donc, un jour, le président du syndicat de ces syndicats dit ne bloquez pas le deal parce que Microsoft est bon pour les employés. Le lendemain, ZeniMax, Studio Microsoft, forme pour une partie de ses employés un syndicat. Donc, déjà, ça devient politiquement extrêmement compliqué pour des démocrates, donc le Parti démocrate aux États-Unis, qui est plutôt de gauche hein, pour le panorama politique américain, et même pas plutôt de gauche, c'est la gauche américaine. Ça devient compliqué. Et en plus de ça, la FTC, les quatre personnes qui doivent voter pour prendre les décisions, il y a un républicain et trois démocrates. Et a priori, on se disait, les démocrates, sous le gouvernement démocrate, s'ils veulent bloquer le deal, ils pourraient. Sauf que l'un des démocrates semblait avoir des remords ou des états d'âme et semblait dire, moi, je ne suis pas sûr qu'il faut voter pour bloquer, étant donné tout ça. Et du coup, proposer un vote pour se retrouver pour la première action forte de la FTC avec une égalité entre les quatre décisionnaires, c'était un revers politique. Donc, ça devenait moins crédible. Avec ces histoires de syndicalisation, ça devient de moins en moins crédible. Et en plus de ça, troisième effet qui se coule, Microsoft a annoncé un deal de 10 ans pour amener Call of Duty sur les plateformes Nintendo. Pourquoi est-ce que Call of Duty est si important ? On en a parlé, bien sûr, ces derniers mois. Call of Duty est le cœur, l'élément principal de la discussion entre Sony et les autorités, parce que Sony dit, si Microsoft met Call of Duty, met une exclusivité sur Call of Duty, c'est un gros coup à notre plateforme à nous, celle de Sony. parce qu'il est tellement important, ce jeu, que on ne pourrait, enfin, ça nous affaiblirait considérablement. Microsoft a dit, a répété des dizaines de fois, nous laisserons Call of Duty partout. Nous avons même proposé un deal à Sony pour garder Call of Duty, on dit 10 ans, mais enfin, a priori, on veut le garder sur la plateforme, sur PlayStation. Et Sony, c'est Sony qui n'a pas voulu signer. Phil Spencer qui se fend de petits commentaires du genre... Il semble être beaucoup plus préoccupé par le fait de parler avec les autorités plutôt que d'effectivement résoudre le problème et signer ce deal qu'on leur propose de bonne foi. Et là, le deal amène Call of Duty sur Nintendo pour 10 ans. Et en plus, ils disent à Valve, nous engageons à garder Call of Duty sur Steam également pendant 10 ans, donc ne pas le rapatrier sur une plateforme à nous. Ça démontre par A plus B de manière indubitable que Call of Duty, c'est pas du tout le problème, et c'est, on va dire, une bonne partie de l'argument de Sony. C'est un peu échec et mat, là. Entre le bénéfice pour les travailleurs par les syndicats et l'absence d'exclusivité, moi, ma prédiction, c'est que la FTC annonce... En plus, Brad Smith, le président de Microsoft, a été rencontré visiblement la FTC hier ou ce matin... Moi, mon estimation, c'était déjà au début de semaine, et là, j'en suis encore plus renforcé. Demain, vendredi, le jour où ça fait le moins de bruit possible pour les news qu'on veut pas trop, dont on ne veut pas qu'elles fassent trop de bruit, la FTC annonce, nous approuvons le deal. De là qu'en début de semaine, il semblait être plutôt contre, vendredi, ils vont annoncer qu'ils l'approuvent et que c'est plié et que c'est terminé et qu'on n'en parle plus. Et bien sûr, une fois que la FTC l'a approuvé, il est... plus compliqué pour à la fois l'Angleterre et l'Europe, qui sont les deux gros morceaux qui restent, de ne pas l'approuver, même si rien n'est impossible. Hein. Mais ça semblerait assez crédible. On me dit dans la chatroom, Microsoft ne propose pas de deal à Sony, justement. Si, Microsoft a proposé le deal à Sony, et c'est Sony qui ne l'a pas pris. Ils ont un contrat... déjà prêt, comme celui qu'ils ont avec Nintendo, ils ont un contrat prêt, et Sony fait la sourde oreille. Sony, ils font genre, oh, mais vous rendez compte, si jamais Microsoft nous enlève Call of Duty, ça n'irait pas. Mais Microsoft, ils sont là, mais attendez, on a le contrat, là. Tu veux une photo du contrat ? Qu'est-ce que tu veux, en fait ? Et c'est évidemment Sony qui joue pour dire, pour essayer de bloquer le deal autant qu'ils peuvent, et c'est de bonne guerre, parce qu'ils veulent sécuriser leur position. Mais clairement, c'est Sony qui freine des quatre fers et des quatre pattes pour ça. Bon, c'est terminé là, c'est plié au moins aux États-Unis.
Ouais. Moi, j'ai une question, Patrick. Il n'y a aucune autorité dans le monde qui a validé le deal pour le moment, c'est ça ?
Si, mais c'est genre, je crois, le Brésil ou ce genre de choses. D'accord. Vois, c'est des autorités un petit peu moins...
Les gros, les Européens, enfin les gros entre guillemets, les Européens et les Américains, pour le moment, ils n'ont pas validé quoi que ce soit.
Tout à fait. L'Europe, les États-Unis et l'Angleterre n'ont pas validé, et même plus que ça, semblent être en train de regarder ça de très très près avec un a priori jusqu'à il y a quelques jours plutôt négatif.
Après, pour une fois, c'est moi qui vais faire l'avocat du diable dans ton émission, Patrick, d'habitude, c'est toi. Mais c'est vrai que la position de Sony, elle est compréhensible dans le sens où l'argument quand même qui va être massu à terme, c'est que Call of Duty sera dans Game Pass. Donc Call of Duty sera, entre guillemets, gratuit pour les gens qui ont Game Pass. Donc forcément, c'est quand même une espèce de... Alors, j'y rappelle jusqu'à parler de concurrence déloyale, ce serait trop fort. Mais il y a quand même un vrai argument là-dessus, tu vois. Donc, c'est aussi pour ça. Enfin, je peux comprendre aussi le discours de Sony un peu qui freine des cas de fer là-dessus, quoi.
Bah, disons que je suis sûr que Microsoft pourrait dire à Sony, mais nous, on le met sur votre système d'abonnement aussi, hein. Il n'y a pas de souci. Nous, on le met partout.
Tu crois ?
Oui, je pense qu'il voudrait... Oh, peut-être pas. Mais disons que ce n'est pas la même question, quoi. Après, c'est Sony qui, je pense, ne veut pas s'aventurer sur ce terrain, parce que Sony pourrait mettre tout leur gros jeu à eux sur leur système d'abonnement également.
Bien sûr.
Donc, tu vois, c'est un petit peu... Là, ils ont une stratégie différente, mais ils ne peuvent pas imposer cette stratégie différente. Enfin, c'est une question qui n'a pas vraiment été posée, là. Le problème ne se pose pas. Un des trucs qui pourrait se poser, c'est est-ce que les autorités demanderaient, en plus de cet accord de longue durée pour Call of Duty, demanderaient qu'il n'y ait pas de jeu qui soit exclusif au Game Pass, en tout cas parmi les gros. Tu vois, que Microsoft ne puisse pas dire ce jeu, il n'est que sur le Game Pass et pas sur d'autres plateformes. C'est possible. Mais c'est le seul truc qui me paraît... qui me paraît... comment dire... crédible et probable. Comme autre condition, quoi.
Parce que là, disons que c'est vraiment... Call of Duty, c'est vraiment le point de friction. Mais il y a quand même d'autres énormes licences. Enfin, il y a quand même toutes les licences Blizzard, tu vois. Un Diablo 4 sur, un Diablo 4 chez Microsoft sur le Game Pass, c'est pareil, c'est un sacré argument. Et je suis presque étonné qu'on se focus que sur Call of Duty, qui est évidemment quand même le poulain, tu vois. Mais il y a quand même d'autres énormes licences au sein d'Activision Blizzard, tu vois.
Et c'est ce que Sony a choisi de mettre en avant. Ouais.
Aucune qui arrive à la cheville de Call of Duty, c'est pour ça que c'est lui qui cristallise le débat, mais bon, on sait très bien qu'effectivement, ça va plus loin que ça.
Ouais.
Quand tu vois les chiffres de Modern Warfare 2, par exemple, en termes de revenus et tout, qui sont monstrueux, alors que le jeu est pas dingue en soi en plus, mais c'est un autre problème. Je comprends aussi que, voilà, que ce soit quand même une sorte de bataille. Une bataille
aussi, oui, mais le problème, pour être clair, le problème... n'est plus du tout que Call of Duty ne sera pas sur les plateformes Sony. C'est Sony qui s'en sert comme argument politique pour faire valoir son argument, parce que Call of Duty ne sera pas en exclu. Là, c'est terminé. Depuis des mois déjà, il est garanti qu'il sera pas exclusif. Donc, c'est vraiment un argument. Là où je pense que les choses ont suivi leur cours, c'est que maintenant, c'est pas juste des promesses un peu vagues de Phil Spencer qui dit... oui, mais Call of Duty, on n'a pas d'intérêt à le rendre exclusif, et puis on le gardera pour quelques années. Là, suite aux pressions de Sony et aux pressions des organismes de régulation, eh ben, on a un contrat, on a une assurance certaine, et en plus de ça, je pense que pour n'importe quel autre jeu, gros jeu comme ça, alors je ne sais pas si Diablo rentre dans cette catégorie, mais n'importe quel autre gros jeu de ce type, Microsoft aura du mal à le rendre exclusif sans s'attirer les foudres de ces mêmes autorités. Parce que, tu vois, évidemment, sur le papier, ils ont promis que pour Call of Duty, et c'est le jeu le plus important, mais s'ils se mettent à mettre tous les autres jeux en exclus, les gens vont gueuler avec raison, parce qu'ils auront suivi la lettre de leur contrat, mais pas l'esprit. Et je pense que ça a du coup mis une pression sur Microsoft qui ne va pas changer les choses aujourd'hui, mais qui les fige un petit peu de manière plus fiable, et puis fait qu'il y a une sorte d'effet de, comment dire, de peur ou de pression, a fortiori, aussi sur la boîte. Donc, même si l'accord est donné, je pense que suite à toutes ces pressions et suite à toutes ces discussions, l'accord est donné dans des conditions un petit peu différentes que s'il avait été donné sans aucune discussion, et c'est genre, ouais, bon, ok, vas-y... On parlait par exemple des prochains rachats. Là, ce rachat risque de passer. S'il y en a encore un, par exemple, je ne suis pas sûr que ça se fera aussi facilement du tout, voire que ça ne se fera pas. Alors que si celui-là avait été juste « Ok, vas-y, prends Activision, pas de souci », et ben peut-être que ces discussions auraient eu lieu sur un prochain rachat. Là, ça change un petit peu la donne pour la suite, quoi.
Ils peuvent racheter qui après Activision Blizzard. Enfin, je veux dire, si, il reste bien sûr des acteurs énormes comme EA ou Ubisoft, mais
des japonais, coup,
mais, ou des boîtes japonaises, ouais. Effectivement, des Square Enix, des
Capcom, des Sega,
ou des Bandai, ouais, Sega, c'est vrai qu'il y a Sega aussi. C'est vrai.
Bon, ouais, après, mais ils sont quand même pas dans la même position financière, voilà, et sociale que pouvait l'être Activision Blizzard.
Bien sûr. Et puis, accessoirement, je pense que là, ils en ont... Là, c'est bon. Je pense que, tu vois, c'est terminé. Ils ont quand même un certain nombre de studios. À un moment, plutôt que de continuer à racheter des studios, il faudrait peut-être qu'ils en fassent sortir des jeux, qu'ils leur fassent sortir des jeux, parce que jusqu'à maintenant, c'est pas brillant non plus. Tu vois, ils en ont accumulé 38 000 et ils ont sorti 3 jeux, dont 2 moyens. Donc, bon, ça joue aussi. Bon, bien sûr, après, ils peuvent racheter des plus petites boîtes sans que ça fasse beaucoup de bruit, mais clairement. Et puis, comme tu le dis, Eska, il y a la question de la situation de Activision Blizzard. Je t'avoue que quand le deal sera validé, moi, je soufflerai un petit coup quand même, parce que je suis toujours frustré de ce qui s'est passé l'été dernier et du fait qu'on n'ait pas eu de résolution satisfaisante ou même semi-satisfaisante. Donc, au minimum, le fait que l'influence de Microsoft s'étende à Activision Blizzard, ça me laisserait respirer un peu, quoi.
Bah, c'est clair que c'était une des choses qui nous faisait voir le deal comme une bonne nouvelle quand ça a été annoncé, un des premiers trucs auxquels on a pensé, c'est « Wow, Blizzard va être sauvé », entre guillemets, et sans forcément voir effectivement tout ce qu'il y avait derrière et qui a bien été remué par les gens qui sont pas favorables à ce deal-là dans les jours et les semaines qui ont suivi.
C'est vrai que ça parle de tout simplement et si Microsoft rachetait Sony dans le chat, tu vois. Voilà, comme ça, au moins, on n'en parle plus.
On n'aurait plus de problème.
Voilà, c'est bon, allez.
Au moins, la question ne se pose plus. Bobby Kotick devrait quitter la société avec son parachute doré en centaines de millions, certes, mais il devrait quitter la société si le deal se fait. C'est ce qu'on décodait des messages à peine voilés envoyés par les dirigeants au moment de l'annonce du deal. Et puis... à côté de ça, il y a quand même la filouterie de Microsoft qui s'étend au-delà de tout ce dont on vient de discuter, parce que deux jours avant tout ce ramdam et tout ce bordel sur le deal, ils ont annoncé un petit truc minuscule. Ils ont dit « Ouais, bon, finalement, nos jeux, vous savez qu'on disait qu'on n'allait pas faire comme Sony et les passer à $70, donc 80 euros en Europe ». Nos jeux first party, donc nos jeux à nous qu'on produit nous-mêmes, bon, finalement 2023 on va les passer à 80 euros parce que ça va pas, là ça va plus quoi, on est bien obligé, on est obligé. Et donc un de ces trucs où ils avaient pas raillé Sony, mais enfin ils avaient dit Sony augmente le prix de 10 euros, nous non, c'était il y a quoi ? C'était il y a 2 ans. Alors oui, les choses ont changé il y a 2 ans, mais c'était clair que ça allait arriver. Et là tout à coup ils l'ont annoncé. Et 2 jours plus tard, il y a eu un tel bordel que tout le monde a oublié cette histoire. Ils sont malins chez Microsoft. Ils sont vraiment malins.
Il faut bien rentrer. Est-ce que du coup, le prix du Game Pass va augmenter ? Ça, par contre, on ne sait pas.
Et ben...
Parce que, en fait, cette augmentation de vente, c'est un argument supplémentaire pour t'abonner au Game Pass, évidemment.
Et c'est pour ça que c'est encore plus des filous chez Microsoft. C'est incroyable. Ils augmentent le prix d'un truc, mais en fait, mécaniquement, ça fait relativement baisser le prix du reste. C'est un encore meilleur deal, le Game Pass.
C'est fou. Moi, je réussis toujours à profiter de mon
70
petit...
euros, un jeu à 80 euros, c'est 8 mois de Game Pass, en gros, quoi. Enfin, pas la version Ultimate, mais bon, c'est quand même...
Ouais. Pardon, est-ce que je t'ai interrompu quelque chose ?
Non, je disais que j'arrivais toujours à profiter de la petite astuce pour avoir le Game Pass à 1 euro sur le PC. Je me demandais combien de temps ça allait encore durer. Ça marche toujours.
Une fois que tu t'es abonné, mon abonnement Game Pass que j'avais pris il y a 3 ans vient de se terminer. Donc, j'ai payé mes 12 euros là, il y a quelques jours. Mais du coup, on ne peut pas la refaire, l'astuce. Si je me désabonne et je ne peux pas refaire, c'est quand on s'abonne pour la première fois.
Donc, ouais, mais toi, t'as le Game Pass Xbox et PC.
J'ai le Ultimate, oui.
Ouais, alors que sur le PC only, si tu attends l'expiration de ton abonnement, derrière, tu peux te réabonner pour 1 euro. Il faut juste désactiver le...
Mais attends, on dit dans la chatroom, si, tu peux le refaire. Ok ? Faut pas avoir d'abo valide. Ah, mais je vais désactiver mon abonnement et le refaire alors !
Il faut juste désactiver son paiement automatique et une fois qu'il arrive à expiration, il te propose le réabonnement à 1 euro.
Damned ! Ah, mais vite, il faut que je le fasse. Très bien. Bon, bah. Je vais refaire ça, du coup. Bref, voilà pour les différents sujets des petits filous de Microsoft. C'était... j'avoue que je suis très impressionné par leur maîtrise politique et stratégique. Ils se sont assis, cet été, dans un bureau avec Brad Smith, Satya Nadella et Phil Spencer. Ils se sont dit, bon, on va faire comment pour faire passer le truc. Et ils ont bu un petit peu de bière et ils ont trouvé un plan machiavélique qui, je crois, va fonctionner. Enfin, on va voir. Hein. Ça se trouve, je vais me planter, mais moi, je suis convaincu. Take out the trash day tomorrow. La FTC annonce, c'est bon pour nous. Et on va dire, dans les 2 mois, ça passe pour l'Europe et l'Angleterre également. On va voir.
Sinon, ils rachèteront la FTC et ça passera.
On peut y après, en même temps. Eh bien, écoutez, c'est tout pour nos gros sujets à retenir cette semaine. Et je vais donc vous rappeler que vous pouvez soutenir le rendez-vous jeu pour des sommes bien plus modiques que celles du Game Pass ou d'un jeu Microsoft. Vous pouvez aller sur patreon.com/rdvjeu pour regarder ce qui vous est proposé, des petits bonus à recevoir quand vous êtes abonné, des timecodes, des petits after-shows, des émissions sans pub et sans cette partie promo au milieu, etc. Et en plus, le plaisir de savoir que vous soutenez cette émission. Et ça, franchement, honnêtement, ça n'a pas de prix. Enfin si, 1 euro par épisode par exemple, ça c'est un des prix que ça peut avoir, mais le plaisir n'a pas vraiment de prix, donc au final, vous faites quand même un deal incroyable. Hein. Allez voir sur patreon.com/rdvjeux, je dis souvent que le Game Pass est le meilleur deal in gaming, the best deal in gaming, la meilleure affaire du monde pour les joueurs. En fait, c'est pas tout à fait vrai, c'est l'abonnement au rendez-vous jeu qui est la meilleure affaire pour tous les joueurs du monde. Et en particulier ceux qui parlent français. Donc patreon.com/rdvjeux, allez y jeter un coup d'œil et devenez patriote, become what you can be, the best person, mass version of yourself. Patreon.com/rdvjeux.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et on passe maintenant à la partie des jeux auxquels on joue en ce moment. Alors moi, le jeu auquel je joue en ce moment, c'est essayer de faire en sorte que mes enfants aillent à la crèche. C'est pas facile. Ils sont malades tout le temps. C'est vraiment un hard mode. Mais JK, lui, il joue à des vrais jeux, comme par exemple Callisto Protocol. Dis-nous tout sur ce jeu dont j'ai entendu
exactement
beaucoup de choses contradictoires.
Oui. C'est vrai que c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant. J'ai pas été voir le métacritique, mais en France, le jeu est reçu de manière très, 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 très partagée, on va dire. Ça va de. J'ai vu un 18 sur 20 chez Jeux Actu, qui est peut-être un peu exagéré. J'ai vu un 4 sur 10 chez Gamekult. Tu vois, vraiment. C'est peut-être un peu aussi exagéré. Et moi, je me situe, alors du coup, je suis corporé contre ancienne boîte, je me situe plus au niveau de jeuxvideo.com qui a mis 15, puisque... Alors, pour le coup, je précise, j'en suis peut-être à la moitié, hein, j'ai pas fini le jeu encore, mais bon, je pense que j'ai déjà un bon avis sur ce qu'est le jeu, surtout par rapport au review, ça colle avec mon ressenti. Alors, je rappelle comme ce que c'est un jeu d'horreur de science-fiction, qui est le successeur spirituel de Dead Space, hein, qui était sorti il y a quelques années maintenant, puisque c'est créé par un studio qui a été monté par Glenn Schofield, qui était lui-même directeur sur Dead Space. Donc, complètement, on est vraiment dans cette espèce de suite spirituelle au premier Dead Space. Donc, on explore cette fois-ci une prison, qui est une prison sur une planète perdue, une lune de Neptune, je crois, un truc comme ça. On est un prisonnier, en fait, qui essaie de sortir de cette...
Toi.
Callisto, voilà. On est un prisonnier qui essaie de s'échapper et évidemment une prison qui est aux mains d'une espèce de créature absolument dégueulasse. Le jeu est vraiment vraiment gore, mais vraiment à un niveau assez assez sensationnel. Alors moi je suis ravi, hein, je j'adore ça, mais je vous préviens, ça c'est très 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 gore, et surtout les mises à mort du héros sont très inventives. Vraiment c'est à base de mâchoires arrachées, enfin c'est vraiment superbe en gros plan, hein. Pour ça c'est vrai qu'on en a pour notre argent. Et donc voilà, on est sur un jeu d'action aventure assez assez classique en fait au final, puisque c'est relativement linéaire. On avance, on tue des monstres, on débloque des portes et on a un pouvoir de plus ou moins de télékinésie où on peut attraper notamment des objets et des monstres pour les balancer plus loin, etc. Voilà. Donc, effectivement, à première vue, on peut se dire, waouh, c'est vraiment la formule Dead Space telle qu'elle était il y a 15 ans. C'est pas faux, sauf que il y a quelques choix intéressants. Par exemple, c'est plus un jeu de corps à corps que de tir à distance finalement. Dead Space était vraiment, tu te mettais le plus de l'ennemi possible pour pouvoir éviter le combat, la confrontation au corps à corps, parce que là, t'étais forcément perdant. Là, c'est globalement l'inverse, faut vraiment aller au corps à corps parce qu'on a très peu de munitions et on a une arme, une espèce de massue électrique qui permet de se battre en fait, et il y a tout un système d'esquive qui est plutôt marrant, qui a l'air d'être un peu inspiré des esquives dans la boxe, tu vois, on fait un coup à droite, un coup à gauche pour éviter les coups. Et en fait, voilà, il y a un mélange de corps à corps et quand même de tir à distance, mais de manière assez dynamique, qui rend les affrontements hyper, c'est vraiment très très brutal, très... vraiment, on est vraiment pris dedans à chaque combat, surtout que c'est assez difficile, ça peut être assez difficile. Ça fonctionne extrêmement bien, ce système de combat, quand il y a un ennemi à l'écran, voire deux. Quand il commence à avoir trois ou quatre, ça commence à devenir très compliqué, parce que là, la caméra part dans tous les sens, et ça peut être assez pénible, malheureusement. Donc, c'est un peu le défaut du jeu.
Très ou trop compliqué
Là, par exemple, moi je sais que j'ai eu un passage, une sorte de scène de siège où tu dois, classique, tu dois attendre quelques minutes qu'un truc se déclenche, et donc pendant ce temps, tu te tapes des vagues d'ennemis. Ce passage-là, au bout d'un moment, je l'ai passé en facile, parce que tu peux. Par contre, ça, ce qui est bien, c'est que tu peux. Il y a beaucoup d'options d'accessibilité. Tu peux switcher de difficulté à la volée, te mettre en facile si tu passes un passage trop compliqué, puis te remettre en normal ou en difficile. Donc ça, c'est bien. Donc par exemple, ce passage-là, typiquement, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. À partir du moment où j'éprouve plus de plaisir, tu vois, dans ces scènes-là, hop, je m'embête pas trop. C'est ce que j'ai fait sur Plectel, par exemple, sur certains passages très pénibles sur la fin, et j'ai aucun problème avec ça. Donc voilà. Après, très très bon travail sur l'ambiance, sur les graphismes, sur la réalisation, le son. Ça, c'est vrai que c'est vraiment hyper léché. En plus, sur PC, moi j'y joue sur PC. Hein. À la sortie du jeu, même avant, parce que j'avais une version un petit peu avant, en termes d'opti, par contre, c'était une catastrophe. Mais ils ont fait des mises à jour depuis qui améliorent quand même grandement les choses. Je précise quand même que le jeu est très gourmand. Hein. Il faut quand même une bonne config. Hein. Il ne marche pas sur Steam Deck, à mon grand désarroi. Enfin, il marche pas. Il marche, mais dans des conditions, pas vraiment acceptables. Donc voilà. Effectivement, il n'est pas d'une originalité folle. Il reste quand même sur plein de points en termes de mécanique de jeu, bloqué dans le passé, bloqué à l'époque après Dead Space, tu vois. Il prend pas en compte pas mal d'améliorations qui ont été faites dans ce genre de jeu. Un truc, par exemple, moi, qui m'énerve au plus haut point, c'est que le héros est assez lourd en termes de combat, en termes de déplacement, donc on n'est pas sur un héros très rapide, etc. Ça, à la limite, c'est pas un problème. Mais par exemple, il n'y a pas de demi-tour automatique, enfin de demi-tour rapide, ce qui est un truc que tu as dans la plupart des Resident Evil aujourd'hui, dans la plupart des jeux d'action-aventure et rentrée notamment horrifique. Et ça peut être très énervant quand notamment tu sais que t'as un ennemi derrière toi parce que tu t'enfuis, de devoir te retourner avec le stick droit, ça prend trois plombes, enfin c'est relou. Le héros, pareil, met de longues secondes à se soigner. Donc, pendant un combat, autant te dire que tu peux espérer oublier de se soigner pendant un combat. Il y a plein de petits trucs comme ça qui peuvent rendre l'expérience un petit peu irritante à certains moments, et te dire, bon, j'aurais bien aimé un peu plus de modernité dans le gameplay. Voilà. À part ça, c'est vraiment le jeu, finalement, promis, dans le sens où c'est une sorte de suite spirituelle de Dead Space, avec peut-être un focus sur les combats qui est plus important, et un bon travail sur l'ambiance et l'horreur et le gore. Ça fait pas très peur. Enfin, moi, je sais que le jeu est pas très effrayant, mais il peut être assez intense au niveau de ses combats, quoi. Donc voilà. Pour moi, c'est un bon jeu. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un truc inoubliable, mais ça fait vraiment le taf si on aime ce genre, quoi. Voilà.
J'ai résumé à peu près mon avis. On ne sait pas comment il sera, mais il y a le remake de Dead Space qui arrive normalement en début d'année prochaine. Est-ce que Callisto Protocol, ça a l'air d'être un Dead Space remis au goût du jour, non, mais un Dead Space fait aujourd'hui, mais dans le style de l'époque, ou est-ce qu'il est quand même plus intéressant, meilleur, mieux conçu que Dead Space de l'époque? Tu l'as peut-être pas fait depuis longtemps, mais...
Non, pour moi, Dead Space reste quand même un grand, grand classique. J'y ai joué il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'en ai un souvenir relativement frais. Il reste même, je pense, supérieur. Par exemple, ce que fait Dead Space, que ne fait pas Callisto Protocol, c'est que Dead Space a vraiment un côté exploration, où tu as une carte, tu peux vraiment un peu te perdre, enfin, même si c'est pas open, hein, alors que Callisto Protocol est beaucoup plus linéaire. ce qui n'est pas un défaut en soi, hein, c'est pas trop un souci, tu vois. Dead Space, il y a quelques énigmes aussi environnementales, etc. Callisto Protocol a très très peu ça. Donc là-dessus, c'est même quasiment une régression par rapport à Dead Space. Mais à titre perso, pour moi, c'est pas vraiment un défaut, c'est un choix de game design, c'est pas un souci, quoi. Du coup, on verra quand le remake de Dead Space sortira, qui a l'air techniquement, en tout cas, ultra solide, et si en plus ils améliorent les quelques défauts de gameplay qu'il pouvait y avoir à l'époque ou ils modernisent ce qu'il faut. Bah, il y a clairement Dead Space a des chances d'être, enfin ce remake a des chances d'être meilleur entre guillemets Callisto Protocol. Je pense que les deux jeux, enfin si on prend en compte que le Dead Space remake est un nouveau jeu, tu vois, et pas juste un remake, pour ceux par exemple, pour celles et ceux qui ont jamais fait Dead Space à l'époque, et si le remake est vraiment à la hauteur de ce qu'on espère, ça peut être vraiment une super expérience. Mais je pense qu'au final les deux vont se compléter. Ça va être intéressant de voir justement l'affrontement des deux, mais les deux vont se compléter parce qu'effectivement, il y a un côté vraiment très, très brutal sur Callisto Protocol en termes de combat, encore une fois, avec le corps à corps et les effets de gore, les effets de combat, etc., qui vont plus loin que Dead Space, hein, je trouve, encore une fois. Et c'est marrant parce que j'avais l'occasion de rencontrer Glenn Schofield il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, pour une prévue du jeu. Et je l'avais interviewé et vraiment on avait parlé de cinéma d'horreur et lui il est fan, enfin, et tu chantais sincère, hein, de tout ce qui est les films vraiment ultra 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 violents, ultra gore, etc. Et ça pour le coup ça se ressent dans le jeu parce que il y a cette espèce de plaisir dans l'hémoglobine qui est assez fou, quoi. Donc voilà.
Donc ça fonctionne. Il est bon.
Ça fonctionne. C'est pas le grand jeu, c'est pas la claque, mais c'est un jeu dans son genre qui est quand même assez efficace et plutôt bien fait. Alors encore une fois, j'en suis à la moitié, peut-être que ça s'écroule sur la fin. D'après ce que j'ai lu dans les tests, ça paraît d'être le cas, mais voilà quoi.
Ouais. Je peux te poser une question sur du coup un autre jeu. Je vais sauter un petit peu dans ta liste parce que j'ai joué moi à Evil West il y a quelques semaines. Et c'était un petit peu mon impression sur Evil West aussi, genre ouais c'est un bon jeu, c'est sympa, ça réinvente pas la roue, mais c'est cool, c'est fun, ça te donne exactement ce que c'était censé te donner. Et du coup, est-ce qu'on est un petit peu sur le même niveau entre Evil West, auquel tu as aussi joué, et Callisto Protocol, ou il y en a un qui est au-dessus de l'autre ?
Oh, c'est difficile parce que déjà pour moi Evil West a une ambition technique qui est quand même un peu moindre, hein. C'est plus un double A, tu vois, en termes de qualité technique, même si c'est un jeu qui est très propre, qui fait le taf là-dessus, quoi. Et on est sur une expérience vraiment type pour moi Evil West c'est vraiment une bonne série B, tu vois, dans le sens un peu c'est pas un nanar, tu vois, parce que c'est serait méchant de dire ça, mais tu vois, en termes d'ambiance, en termes de scénario, en termes de punchline, etc., tu sens le second degré, ce que n'a pas du tout, évidemment, Callisto Protocol, qui se prend beaucoup plus au sérieux. Et après, en système de jeu, en système de combat, moi, je pense qu'Evil West, et même si bon, c'est pas les mêmes types de jeux, mais je pense qu'Evil West est plus réussi. Ouais, mais je pense que malgré tout, Evil West est plus réussi parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de systèmes dans Evil West qui fonctionnent bien. Tu vois, ce mélange de corps à corps et de combat à distance qu'il y a aussi dans ce Callisto Protocol. Bah, dans Evil West, c'est d'une nervosité, pour le coup, ça n'a rien à voir avec Callisto Protocol. Donc, c'est quand même deux expériences différentes. Callisto, tu vas quand même y jouer plus pour l'ambiance et le côté viscéral du truc. Evil West, il joue vraiment pour le fun parce que les combats sont plutôt fun et l'ambiance est rigolote, tu vois. Donc, c'est vraiment deux jeux qui sont... c'est quand même difficile de les comparer, je pense.
D'accord.
Mais Evil West, moi, je suis raccord avec toi. Evil West, c'est pareil, c'est un bon petit jeu, tu vois. C'est pas le jeu du siècle. Et c'est vraiment le bon jeu à... Je pense que c'est le bon jeu que vous allez pouvoir faire peut-être début janvier, tu vois, quand vous aurez épuisé tous vos gros jeux de l'année, là, il vous restera Evil West à faire et vous serez bien content de l'avoir, quoi.
Et il tourne sur
Steam Deck.
Sur Steam Deck, donc forcément, il est meilleur.
Moi, je rappelle jusque-là, okay. Mais oui, voilà.
Super, donc, à part ça, il y a un autre jeu auquel tu as joué, dont j'ai entendu parler, mais sans vraiment même savoir de quoi il s'agit. C'est Signalis.
Signalis. Signalis, c'est mon petit coup de cœur. Mais c'est marrant parce qu'on va rester un peu dans la même ambiance, que je suis désolé, hein, que Callisto Protocol, puisque tu vois, je sais pas si toi ou Iska, vous voyez pas du tout ce que c'est.
Bah, j'ai entendu plein de gens dire justement que c'est mon petit coup de cœur, mais je sais pas du tout ce que c'est. Là, j'ai l'impression que je vais découvrir.
C'est un jeu qui est dans le Game Pass. C'est un jeu qui a été développé pendant 8 ans par deux personnes, par un couple. Donc, voilà, ça c'est juste pour l'histoire. Et c'est un. c'est à nouveau un survival horror de science-fiction. Sauf que là, on est vraiment à l'opposé complet de Callisto Protocol en termes de budget, en termes de visuel, en termes de plein de choses. Puisque là, on est sur un gameplay à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on est très 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 dans l'esprit des premiers Resident Evil ou des premiers Silent Hill, dans le sens où on est sur énormément d'exploration, des allers-retours, trouver les bonnes clés, les bonnes énigmes pour débloquer les bonnes portes, etc. Une gestion de l'inventaire qui est assez poussée, des énigmes qui peuvent être assez dures, notamment sur la fin, mais qui sont extrêmement, je trouve, malines et bien trouvées, notamment avec un système de radio où tu dois trouver les bonnes fréquences pour débloquer des codes, etc. C'est vraiment extrêmement malin, je trouve, en termes d'énigmes. Il y a une super ambiance. Le jeu fait, pour le coup, ce jeu-là, avec pas grand-chose, hein, parce que c'est une vue du dessus en pixel art, il peut vraiment te mettre mal à l'aise, parce qu'on sent clairement... c'est de la science-fiction, mais on sent quand même clairement l'influence surtout de Silent Hill, parce qu'il y a un côté très horreur psychologique qui est vraiment sympa, avec en plus des cinématiques, des cutscenes et un design qui fait très... qui va faire très manga ou du type de science-fiction, type Gun, ce genre de choses.
C'est de la 3D, hein, mais de la 3D qui fait penser effectivement à des graphismes peut-être, je sais pas, le plus proche, ça serait du 16-bits.
Ouais, voilà, moi j'appelle ça la 3D isométrique, quoi. C'est une sorte c'est une vue du dessus, avec quelques cinématiques, avec un scénario par contre qui est extrêmement cryptique, et c'est voulu, hein, c'est vraiment voulu, avec des trucs où tu comprends pas tout, mais justement, t'as envie de te poser des questions, parce que ça raconte beaucoup de choses à travers juste des logs et quelques textes que tu vas lire, et des scènes cinématiques qui sont très courtes, mais qui sont vraiment très belles. Enfin, vraiment, c'est un jeu que j'adore. Alors, faut quand même préciser, on est dans une formule à l'ancienne, donc. Il faut être prêt à faire beaucoup d'allers-retours, à gérer ton inventaire à la casse près par moment, à devoir faire des choix en mettant des trucs dans ton coffre, etc. Et à se prendre un peu la tête sur des énigmes. Les combats sont pas spécialement passionnants, mais ils sont ok, voilà, ils sont assez ok, parce que les créatures sont un peu tout le temps les mêmes. Mais par contre, l'ambiance est super, l'histoire est super, de ce que j'en ai compris, on va dire. Et voilà. C'est un jeu qui peut être frustrant sur la fin. Par contre, moi, je sais qu'à la fin, j'en avais un peu marre, mais on va peut-être mériter un poil moins long. Mais vraiment, c'est une bonne surprise. Si vous aimez vraiment les survival horror à l'ancienne, encore une fois, j'insiste, c'est une formule qui est vraiment, vraiment, vraiment à l'ancienne, mais avec quand même une modernité dans les contrôles, etc. Il n'y a aucun problème. Et c'est un jeu qui est dans le Game Pass. Donc, déjà, si vous avez le Game Pass, vous pouvez l'essayer. Allez-y, c'est vraiment moi c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé.
Mais qu'est-ce qui fait que c'est ton coup de cœur? C'est parce que j'ai l'impression que tu le décris effectivement un petit peu comme un Callisto Protocol. Qu'est-ce qui fait qu'il est au-dessus? J'ai l'impression qu'il a quand même ce petit truc en plus qui fait qu'on...
Disons qu'à titre perso, moi c'est vraiment une formule qui me parle, en fait. La formule à la Resident Evil à l'ancienne, c'est-à-dire, encore une fois, exploration, énigme, débloquer des nouvelles pièces, etc. Il y a pas ce côté Metroidvania, tu sais, où tu vas, au bout de plusieurs heures de jeu, tu vas enfin arriver à débloquer cette fichue porte que tu voyais depuis le début, tu sais pas ce qu'il y a derrière. Il y a vraiment ce côté, ce plaisir de la découverte, vraiment tout bêtement, en fait. Et un vraiment super travail sur l'ambiance et l'univers et la mise en scène. Il y a vraiment tout plein de trucs. Enfin, c'est assez indescriptible, hein, mais au niveau du son aussi, le travail sur le son, vraiment, t'es pris dedans. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment formidable.
L'ambiance,
voilà, c'est vraiment un super travail sur l'ambiance et des bonnes idées en termes de là, tu vois, tu vois des chiffres apparaître, par exemple, là, dans le trailer que tu viens de voir, ça correspond à des fréquences que tu dois mettre en place sur ta radio pour écouter. Il y a qui te donnait des indices sur des énigmes. Enfin, c'est vraiment des... Enfin, moi, j'aime pas trop les énigmes un peu trop obscures. Là, en fait, elles sont pas obscures, elles sont très très malines, en fait, et c'est toujours des... ils arrivent toujours à trouver un petit twist qui te dit, ah, mais j'avais pas pensé à ça. Ça, c'est hyper malin. Et vraiment, c'est vraiment un bon petit jeu, enfin, un très très bon jeu même. D'accord. Je sais pas s'il sera peut-être dans mon top de l'année, je vais voir.
Carrément, d'accord. Bon, bah écoute, ça, on verra en fin de mois. On va se faire un petit épisode GOTY, mais on en parlera ce moment.
J'ai hâte.
Super. Du coup, sur les jeux suivants, si tu peux passer tout petit peu plus vite.
Pentiment, on en a déjà parlé, mais je vais pas forcément revenir dessus. Enfin, je sais que vous en avez déjà parlé. Je crois que c'était Julie qui en avait tout parlé. Moi, c'est malgré tout, j'aime vraiment le jeu sur plein de points, mais ça reste un petit peu une déception malgré tout. Sur Pentiment, je trouve que en deux mots, la liberté qui était que je présentais quand j'avais fait la démo, elle est pas finalement, elle n'est pas tant latente que ça. C'est assez linéaire. Et je trouve que le jeu est tout bêtement, le jeu est trop long. Le jeu est trop long. Le jeu est divisé en trois actes, en fait. Et à la fin de l'acte 2, tu as vraiment une fin, en plus, que j'aime beaucoup. La fin de l'acte 2 est géniale et pourrait être la fin du jeu. Et ben non, tu repars sur un troisième acte qui dure 5 heures. Et franchement, moi, à ce moment-là, je me suis dit, j'ai plus envie, en fait, là. Ouais. Même si j'ai pris beaucoup de plaisir, justement, avant. Et je trouvais que le jeu pêche, c'est bête, hein, mais pêche par excès, en fait. Voilà. Après, par contre, ça reste un truc, une proposition vraiment unique en son genre. Et voilà, un jeu qui parle de la Bavière au XVIe siècle, enfin tu vois, c'est pas un truc que tu as fait souvent dans une abbaye. Sauf que désolé, Starina, c'est pas des brasseurs, c'est des moines copistes. Hein.
Je suis en plein dedans là, mais je dois être dans l'acte 1, du coup, il dure combien d'heures? Ouais.
En tout, il dure une quinzaine d'heures à peu près. Okay. Et pour moi, c'est un jeu qui aurait mérité de durer 10 heures, pas plus, quoi. Ouais. Et bon, après, c'est un jeu malgré tout que j'ai beaucoup aimé, hein, au final, mais par rapport à mes attentes, je suis un petit peu déçu, quoi.
Bah, donc, je suis pas étonné, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui est assez engageant, je trouve, ne serait-ce que dans sa mise en forme.
Ouais.
Et ouais, tenir 15 heures dessus, c'est pas évident.
Ouais. Ah, c'est ça, en fait, c'est 15 heures de la même chose, au final. C'est 15 heures de lecture et de choix de dialogue, c'est littéralement quasiment que ça. Et alors, c'est très bien écrit, hein, et c'est passionnant ce que ça raconte, est passionnant, surtout que c'est hyper documenté. On sent que ça veut vraiment coller à la réalité historique. Là-dessus, c'est vraiment génial, mais encore une fois, moi, j'aurais préféré un truc un peu plus resserré, quoi. Donc voilà.
Ok. Vas-y.
Je vais essayer d'en parler rapidement des deux derniers, parce que ceux-là, en plus, vraiment, c'est des trucs un peu moins connus. Alors, Flatai, je vais faire Flatai en premier. Flatai, ça vient de sortir. C'est un jeu français qui est fait par Monkey Moon Studio, qui sont les auteurs de Nightcall. Je ne sais pas si ça vous parle de Nightcall. C'est sorti à...
Oui, le
tu joues un chauffeur de taxi qui va rencontrer des gens et tu dois démasquer un tueur en série. Là, c'est leur nouveau jeu. Et en fait, là, c'est un jeu de gestion. Un jeu de gestion narratif, c'est-à-dire que tu es le gérant d'une station-service dans un futur... Enfin, je crois que ça se passe en 2022 ou en 2023, mais c'est un monde, en fait, où la technologie a pris un niveau encore plus élevé qu'aujourd'hui. Et en fait, assez rapidement, tu te rends compte que ton patron, c'est une IA, et c'est quasiment dès le début du jeu, en fait, et tu vas te retrouver à gérer cette station-service en installant des appareils de plus en plus technologiques, et surtout qui vont aspirer de plus en plus de données personnelles des clients. Et régulièrement, tu vas rencontrer des clients importants qui vont te parler de leur vie, qui vont avoir des arcs narratifs hyper, hyper chouettes, hyper intéressants. C'est un jeu qui est super bien écrit, et c'est un jeu qui parle de notre rapport à la technologie, et qui va pas forcément dénoncer la technologie telle qu'elle aujourd'hui et notre, on va dire, notre accoutumance à ça, mais c'est notre rapport à la technologie, mais c'est un jeu qui pose plein de questions sur notre monde aujourd'hui tel qu'il est, et c'est vraiment hyper bien, je trouve. Alors c'est pas un jeu de gestion, enfin je veux dire, si vous allez pour la gestion, clairement il faut mettre ça de côté, parce que c'est un jeu de gestion assez light, c'est assez basique, enfin, en termes de jeu de gestion. Moi, ça me suffit parce que les mécaniques sont ok, etc. Par contre, en termes d'écriture et de narration, etc., c'est vraiment super, c'est vraiment super chouette.
Si c'est le même narrative designer que...
Tout à fait, c'est le même. C'est Anthony, c'est le Yeti sur Twitter. Il a travaillé à ISO. C'est le même duo, en tout cas. Donc c'est Laurent Victorino, pardon, au game design, et donc Anthony à la narration. Donc on ressent, en fait, si vous avez aimé l'aspect narratif de Nightcall, vous serez vraiment content de Flatai là-dessus. Et en plus, par rapport à Nightcall, il y a des mécaniques de jeu qui sont beaucoup plus intéressantes. Donc vraiment, c'est une très bonne surprise. C'est une très bonne surprise, Flatai. Je suis en train de jouer en ce moment-là, et c'est un peu plaisir.
On nous dit dans la chatroom que Silence on Joue avait une interview avec eux, donc ouais. Vous pouvez aller...
Bah c'est comme ça que je me suis dit, que c'est en écoutant cette émission que je me suis dit qu'il faut vraiment que je l'essaye, parce que ça a vraiment l'air chouette.
Moi, je suis un peu passé à côté, du coup je vais me le rajouter dans ma...
Ouais, en fait, il est sorti un peu comme ça, et il est sorti sur une période où il y avait tellement de bons jeux que c'était difficile. Mais vraiment, donnez-lui sa chance, parce que ce que ça raconte sur nous, en fait, sur la société aujourd'hui, c'est hyper hyper malin, avec une couche d'un jeu de gestion, encore une fois, assez light, mais pas du tout déplaisant à jouer.
Sur quelle console?
Il est sur Steam, et est-ce qu'il est sur console? Je sais pas, j'ai pas vérifié. Tiens.
Ils l'ont pas mis sur Switch comme.
Ouais, je sais pas. Peut-être qu'il y a un portage prévu, mais ça faut vérifier. Ouais. Donc voilà. Ouais.
Parle-nous du second jeu et on va regarder ça.
Et le dernier, après je vous embête plus. Alors, ouais, The Complex on Footage. Alors, pardon, je rigole d'avance, parce que c'est vraiment le truc le plus bizarre
auquel. Good Old Games, la taille. Donc, il n'est pas sur console.
Oh.
Ouais, bon, il va peut-être arriver sur console plus tard. Ouais. Alors, The Complex Found Footage, il y a deux arguments pour lesquels vous pouvez l'essayer. C'est gratuit.
Alors, attends, c'est The Complex Found Footage.
The Complex Found Footage, voilà. D'accord. Et je t'invite, si tu veux, avec le trailer, tu vas voir. Donc, d'une, c'est gratuit, c'est sur Steam. Et de deux, ça dure une heure. Donc déjà, bon, vous n'avez pas grand-chose à perdre à y jouer. En fait, c'est ce qu'on appelle, tu sais, enfin, vous savez, à l'époque, il y a eu cette grande mode des Walking Simulator, hein, donc des ces jeux où, en vue FPS, on fait juste marcher pendant un certain temps et c'est tout. Bah là, c'est ça. C'est ça, en fait, et comment expliquer ce que c'est. En fait, le trailer le montre bien. C'est un jeu, en fait, où on va marcher dans des grandes pièces vides pendant une heure avec des décors qui changent, évidemment. Mais en fait, il y a un truc tellement bizarre, en fait, dans ce jeu, tellement particulier, que ce soit au niveau du son ou de l'image, qu'en fait, on finit par avoir très peur, en fait, d'avancer dans ce jeu. Alors qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose. Et en fait, on ressort de ce truc un peu dans un état un peu bizarre et c'est un truc très, très étrange. Et en fait, je me suis intéressé à ce jeu parce qu'en fait...
J'ai l'impression que c'est le genre de truc dont il ne faut pas trop parler pour ne pas...
Ouais, c'est ça. Moi, je préfère ne rien dire. Hein. Je précise que c'est tout à fait normal de se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Je ne comprends pas l'intérêt, je ne comprends pas ce truc. Moi, j'ai trouvé ça vraiment passionnant parce qu'en plus, ça m'a ouvert des portes sur un court-métrage qui s'appelle The Backrooms, je crois, un truc comme ça sur YouTube, qui est plus ou moins une inspiration. Enfin, le jeu s'inspire de ce court-métrage. Et en fait, ça m'a ouvert tout un pan de la culture internet que je connaissais pas, tout ce qui était backroom et les liminal spaces. Donc les liminal spaces, c'est lieux de la vie de tous les jours, des bureaux, je sais pas, un parc d'attractions, une piscine, etc., mais qui sont complètement vides. Et en fait, c'est des photos sur internet où quand on les regarde, on se sent un peu mal à l'aise. On sait pas pourquoi, parce qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose de bizarre. Et ça s'appelle des liminal spaces. Et d'accord. De là est né, en fait, un mythe sur Internet qui s'appelle les backrooms, où c'est une creepypasta, donc ces histoires d'horreur qui sont inventées sur Internet, où les gens ont imaginé une sorte de dimension parallèle où on erre comme ça dans des bureaux et des pièces sans fin à vie et on devient fou en fait. Et c'est extrêmement documenté sur internet. Il y a des vidéos là-dessus, il y a des wikis qui sont ultra complets. Enfin, c'est hallucinant. Et moi, ça m'a vraiment passionné parce que ce jeu-là en fait a été la porte d'entrée dans tout cet univers de cette espèce de mythologie qui a été créée que j'ai trouvé hyper intéressant. Donc clairement, c'est vraiment une expérience très bizarre. Hein. Je peux pas vous le vendre comme un truc incroyable, etc. Mais vous n'avez pas grand chose à perdre de l'essayer, puisque encore une fois, c'est gratuit et ça dure pas longtemps. Il faut quand même un gros PC parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que le jeu est très beau. Enfin, visuellement, c'est vraiment photoréaliste et c'est filmé quand même. Enfin, en fait, ça se joue en vue FPS avec un caméscope des années 90. Donc il y a un filtre en fait à l'écran qui est un peu rétro, qui donne en plus un côté encore plus étrange au jeu en fait. Voilà, donc je vous invite à au moins vous intéresser au truc si vous aimez les expériences un peu originales parce que c'est vraiment assez particulier quoi.
Ça marche. The Complex Found Footage.
Ouais, Footage.
On mettra les noms des jeux dans les notes de l'émission.
Ouais.
Super. Et eh ben écoute, merci. Effectivement, il y avait beaucoup de choses que tu étais en train de.
Ah ouais, c'était un long tunnel, mais je voulais partir. Et en fait, moi, ce que je trouve pas, après je vous laisse, hein, c'est que je trouve en fait depuis septembre, c'est qu'on a une variété d'expériences de jeux vidéo qui sont folles. Enfin, entre Pentiment, ouais. Entre Flatai, entre Immortality, tous ces jeux-là, c'est des jeux qui sont pour chacun leur qualité. Il y a vraiment une variété dans ce qu'on nous propose là, depuis 6 mois. Là, je trouve ça fou, quoi.
On est d'accord, oui. Non, c'est sûr que. C'est le truc qu'on répète depuis des années maintenant, ou je sais pas, c'était genre 2016. Depuis 2016, chaque année, c'est la meilleure année du jeu vidéo, quoi. Genre, une année qui est pas bien, tu c'est vois, une année ouais. Où il y a juste deux ou trois jeux absolument exceptionnels et inratables.
Bah ouais, mais tu ouais. sais, on en parlera au bilan, mais l'année dernière, par exemple, je me souviens, on n'avait pas de jeu comme ça qui se démarquait. Là, cette année, je trouve qu'il y a un truc, il y a une créativité dans ce qu'on nous propose qui est folle, quoi.
C'est sûr. Escar. Pas Cordoba.
je vais faire plus rapide.
je crois que c'est des jeux dont tu nous as déjà parlé.
Oui, effectivement, je ne vais pas revenir sur Mario Rabbids 2 ni sur Pentiment parce que vous en avez déjà parlé. J'ai vite fait jouer à Darktide, mais vraiment un tout petit peu. Donc pour l'instant, je ne suis pas trop capable d'en parler. En fait, on a été coupé dans notre élan avec mon frérot, où on est tous les deux très fans de Warhammer, puisque lui, il a acheté le jeu sur Steam et moi, j'ai voulu y jouer sur le Game Pass. Et pour l'instant, ils sont pas cross-server au niveau du multi. Ouais. Donc, on attendra que ce sera cross-server pour y jouer. Mais en tout cas, visuellement, c'est vraiment très, très chouette. Ils ont vraiment imprimé l'essence de l'univers Warhammer 40K. Donc,
Attendre, c'est prévu ou espères que ça va arriver? Ah, c'est prévu, d'accord. Okay.
Oui, non, les équipes ont dit qu'elles allaient le faire. Je ne me suis pas renseignée sur est-ce qu'ils se sont avancés sur des dates ou pas. Je n'ai pas regardé. On s'est dit avec mon frère qu'on attendrait que ça sorte. D'accord. Mais le peu que j'y ai joué, en tout cas sur le Game Pass, j'ai trouvé ça assez sympa. En tout cas, au niveau de l'ambiance et du visuel, ça m'a donné envie d'y jouer plus longuement.
Moi, je note que le fait de passer du temps avec ton frère vaut même pas 40 euros, en fait. C'est ça que tu me disais aussi.
Je lui retourne le compliment.
Non, en fait. Pour ton frère, il pourrait avoir le Game Pass pour 10 euros pour le mois. Et...
Non, en fait, le truc, c'est que je lui ai dit, tu veux pas payer 1 euro de Game Pass. Et le truc, c'est que vu qu'il a fait comme d'habitude, il a bourriné, donc il a déjà des persos qui sont niveau 30 ou 40 sur Steam. Je comprends qu'il n'ait pas forcément envie de recommencer avec
toi. Et du coup, il ne pourra pas jouer avec toi quand tu seras niveau 1 parce qu'il ne voudra pas, il aura des trucs plus importants à faire. D'accord, on voit la famille.
Il le fera. Enfin, j'espère. D'accord. Il n'écoute pas ce podcast, mais je lui ferai écouter pour que.
D'accord, c'est la pression publique qui est mise sur ça. Très bien.
Mais en tout cas, voilà, visuellement très réussi, les premières impressions clavier-souris en main assez chouettes, donc j'attends de voir. Mmh. Je ne reviendrai pas non plus sur...
Il me semble qu'il est dans le Game Pass, non ?
Oui, il est dans le Game Pass. Ouais, mais c'est le problème, c'est que moi je l'ai sur le Game Pass et lui il l'a sur Steam, du coup on ne peut pas jouer
d'accord.
C'est un peu dommage.
C'est con, ouais.
Bah ouais. God of War Ragnarok, bon pareil, t'en as déjà parlé dans les émissions d'avant, donc je suis en plein dedans et j'adore, c'était rien de très étonnant. Par contre, je peux te parler du jeu que j'ai acheté à la suite du dernier épisode du rendez-vous jeu qu'on a fait ensemble, qui est A Little to the Left, qui était un des jeux annoncés pendant le direct. Ouais, c'est ça, le Summer Game Fest, donc dédié au jeu indé, et qui m'a duré que quelques heures. Alors lui, à l'inverse de Pentiment, il se termine en 3-4 heures, et j'ai adoré. C'est vraiment un mix entre Unpacking, je ne sais jamais comment dire, je n'arrive pas à m'y faire, entre Unpacking et un WarioWare. Donc en fait... C'est un jeu de rangement qui fonctionne par tableau, entre guillemets, c'est-à-dire que tu es mis face à des éléments qui sont en désordre et tu dois réussir à comprendre la logique pour les remettre dans l'ordre. Et bien évidemment, ça va du plus simple au plus compliqué. Donc au tout début, on va te mettre un tas de feuilles devant toi et en fait, tu vas comprendre qu'il faut que tu empiles les feuilles de la plus grande à la plus petite. Et à la fin du jeu, tu es dans des tableaux où tu as des caisses à outils avec plein de choses, des vis, des outils, et il faut comprendre comment les outils s'emboîtent, comment, dans quel sens tu dois mettre chaque petite vis, etc., pour que tout s'emboîte parfaitement et que ce soit rangé. Donc c'est un jeu extrêmement satisfaisant. Et visuellement, on est dans du pixel art comment tu t'appelles,
très
tu
plat.
Sais l'esthétique nordique, enfin tu sais les trucs très très cosy, très dans des tons un peu pâles, un peu pastel.
Alors nous on dirait en Finlande,
il y a un côté wholesome,
Hugue peut-être pour les Danois. Hugue, c'est ça que tu cherchais?
Ouais, l'esthétique un peu Ikea, quoi, je sais pas comment dire. Le truc d'accord. Un peu, voilà, tout doux, tout réconfortant. J'ai passé un super moment. Bon, c'est vraiment pour les gens qui ont un problème avec le rangement comme moi. Il y a un côté puzzle game, c'est pas très compliqué. Donc, c'est vraiment plus pour le côté détente. Et visuellement, c'est super mignon, quoi. C'est vraiment très, très, très réussi, j'ai trouvé. Donc, petit coup de cœur pour ce A Little to the Left qui coûte une misère. Je ne sais plus combien il coûte, mais moi, j'ai joué sur Switch. Et j'ai passé un super moment.
D'accord. C'est pour les gens un petit peu OCD comme moi et toi,
voilà.
Clairement.
Ah ouais. Moi, j'adore tout ça, là, tout ce qui est Wilmot's Warehouse, les trucs comme ça, c'est...
Je crois que j'avais acheté Wilmot's Warehouse suite à ta recommandation.
Mais tu n'y as peut-être pas encore joué, du coup.
Écoute, j'ai suffisamment de rangement à la maison avec, tu vois, toutes les couches, les jouets partout, tout ça.
Mais dans Wilmot's Warehouse, tu as un côté un peu stressant parce que tu dois, t'as un timing à respecter, tu dois vite ranger ton entrepôt, tu dois vite faire tes livraisons. Alors que Little to the Left, tu as vraiment zéro pression, tu as un système d'étoiles, je n'ai pas compris comment il fonctionnait.
Il y a le chat quand même qui vient t'emmerder, mais...
Oui, mais c'est tout. Des fois, tu vois une petite patoune de chat qui c'est mignon. Voilà, d'accord, tu vois, c'est tout. Ça s'arrête là, quoi. donc vraiment, on parlait de propositions jeux vidéo qui sortent de l'ordinaire. Et ben là, on en a une, quoi.
Clairement, simple. Oui, c'est vrai. Donc, A Little to the Left, il est sur PC et Switch au minimum. Je ne sais pas s'il est sur les autres consoles. Je ne suis pas sûr, mais au moins ça.
Je ne crois pas.
Et pour ma part, bon bah vous savez hein, à quoi j'ai joué. Le jeu des enfants malades, ai-je mis dans la liste. Et aussi Overwatch 2. Et c'est marrant, j'ai une réflexion sur Overwatch 2. C'est que j'ai toujours pas fini God of War. Et genre, World of Warcraft, j'ai pas continué non plus. Mais en fait, je suis dans un état de fatigue si avancé. Là, ça se sent pas parce que c'est The Show Must Go On et donc je suis plein d'énergie, mais... Je suis dans un état de fatigue si avancé que je disais ça à ma femme hier. En fait, faire deux ou trois parties d'Overwatch, c'est un petit peu comme elle prend son thé avant d'aller dormir. Moi, je fais mes parties d'Overwatch et je n'ai pas besoin de réfléchir. Alors, parfois, je fais des parties où je try hard, je suis à fond, machin, mais parfois, je fais juste quelques parties comme ça. Et c'est le jeu détente. Et c'est genre, je fais quelques parties avant d'aller dormir et ça me détend et c'est cool. Alors que si je devais essayer de, par exemple, finir God of War, je dois être engagé pour le gameplay qui est pas hyper compliqué, mais enfin, je fais attention, c'est pas un truc que je fais tout le temps. L'histoire, il faut être engagé, etc. C'est vraiment le doudou. Et c'est pour ça, je crois, que j'y passe tellement de temps. C'est au lieu de... Enfin, je sais pas, il y a des gens qui vont lire un peu avant de dormir, qui vont... boire un truc ou une bière. Moi, je fais deux ou trois games d'Overwatch et ça me détend. Alors en plus, là, il y a un nouveau héros qui est arrivé. Ils ont retravaillé un petit peu, un minimum, la saison. Enfin, même pas vraiment. Ils ont changé quelques trucs. Donc, il y a un petit peu de vie dans le jeu. Mais au-delà de ça, il y a vraiment... La plupart des joueurs ont un jeu comme ça. Pour beaucoup, d'ailleurs, c'est sans doute World of Warcraft. T'arrives au niveau max, tu vas faire tes quêtes quotidiennes, etc. Mais en ce moment, moi, c'est vraiment... Et puis parfois, c'est Destiny. Et en ce moment, c'est Overwatch 2. Et il y a une nouvelle saison sur Destiny. Et je voudrais jouer à Destiny pour faire cette nouvelle saison. Mais c'est toujours un peu compliqué de se relancer dedans. Et puis surtout, j'ai Overwatch 2 qui m'attend, quoi. Comme on dit dans la chatroom, oui, c'est du confort. C'est comme la comfort food. Exactement, bravo Kassim. C'est comme la comfort food, c'est du comfort game.
Je comprends truc. Vraiment ce que tu dis hein, parce que moi j'ai le même délire avec tu vois quand je suis fatigué à cause des enfants ou autre hein, c'est vrai qu'il y a moi en ce moment par exemple l'équivalent chez moi c'est Modern Warfare 2 quoi. Je vais lancer une partie de Modern Warfare 2, je vais me faire 2-3 games, ça va vider le cerveau, tu sais, c'est pas le truc quand t'as besoin d'investir narrativement dans quelque chose, tu vois, et après je passe à autre chose quoi.
Tu veux dire t'es parti en multi sur Modern
Warfare. Je parle du multi.
Ouais, bien sûr. Oui, non, mais c'est ça. Ma femme, elle encore, a un très bon moyen de le décrire. C'est des activités qui nécessitent suffisamment de ton de puissance de ton cerveau pour t'occuper, mais pas trop pour t'imposer de réfléchir en fait. T'es juste posé là et puis tu. C'est une sorte de méditation.
C'est des jeux indulgents.
C'est même pas juste une question d'indulgence, c'est que ça t'occupe la tête. Comme je sais pas, comme faire du tricot, comme faire tu vois ce genre de choses quoi. Donc voilà.
Ouais, je vois très bien parce qu'en ce moment je suis à deux doigts de retomber dans le point de croix et je suis sûre que j'ai pas 70 ans. Mais je vois des trucs
ma femme fait plein de trucs en tricot et ça c'est juste t'occuper un peu la tête, t'occuper les mains et ça marche très bien quoi. Et en plus de ça, contrairement au tricot, je suis sûr qu'il y a des trucs passionnants dans le tricot, mais en plus de ça, il y a quand même Ramattra sur la saison 2 de Overwatch, qu'on essaye de voir si on réussit à le faire fonctionner, ce nouveau tank omnique qui a deux formes, qui est très cool, qui est un pote de Zenyatta, enfin tu vois, bon, il y a quand même des trucs un peu excitants quoi aussi. Et puis la nouvelle carte, tout ça, donc... Voilà pour ma part... Et puis, bah, je crois que c'est tout pour les jeux auxquels on joue en ce moment. c'est à peu près tout. Enfin, je suis sûr qu'il y a des choses à dire aussi, mais ça fait pas mal.
Oui, oui. Tu sais que moi, j'en ai enlevé dans ma liste, hein, parce que sinon, déjà que j'ai été très long, alors là, ça aurait été un enfer. Je vous ai pas parlé de Triangle Strategy, par exemple, que je commence à faire. Bon, je rattrape, hein, mais j'ai des trucs comme ça. Là, j'ai Final Fantasy, je vois que la Crisis Core Réunion, je l'ai pas lancé encore, mais je pense que je vais le faire
oui,
aussi.
Oui, qui est sorti, c'est l'une des sorties de la semaine.
J'en parlerai en
janvier.
Ouais, j'en parle en janvier.
Ah non, tu l'as pas lancé. Tu l'as pas lancé.
J'ai lancé, si, je l'ai lancé, mais j'ai joué une demi-heure, donc je peux vraiment pas en parler pour le moment. D'accord. Je connais pas l'original en plus, hein, donc je découvre complètement. Pour moi, c'est vraiment une découverte.
Là, le jeu PSP, je pense qu'il y a peu de gens qui ont joué, à part les vrais gros fans, quoi.
Pas faux.
Super, bah écoutez, du coup, on va passer à notre troisième partie d'émission avec le reste de l'actu. On va couvrir tout de suite. D'abord. On parlait de Diablo tout à l'heure. Je suis passé en mode sur le stream, sur la scène où on ne voit plus rien. Mais maintenant, on me voit. Diablo 4, il y a eu une session de test et de jeu pour de nombreux influenceurs qui ont donné leur avis. Et ils sont plutôt satisfaits. Alors, ils pouvaient jouer 25 niveaux sur 50 ou 60. Donc, c'était le début du jeu, ou peut-être même plus que ça. C'était le début du jeu, mais il a l'air cool. Donc, beaucoup d'éléments multijoueurs, limite MMO, à la Lost Ark ou à la Diablo Immortal. Ils ont beaucoup insisté, les développeurs, sur le fait que le shop sera uniquement pour du cosmétique. Donc, il n'y aura pas moyen d'acheter de la puissance en jeu, contrairement à Diablo Immortal. Mais le jeu a l'air très cool. Tout le monde a l'air content, en fait. J'ai vu pas mal d'avis et tout le monde a l'air content du jeu. On imagine que s'ils ont fait ce test maintenant, c'est qu'ils ont des annonces à faire pour les Game Awards qui arrivent là en demain. C'est ça ? Oui, c'est demain, je crois.
C'est ce soir. Ça commence à 1h du matin, je crois.
Donc, vous saurez, et a priori, la date risque d'être annoncée. On parle du 4 juin, une rumeur.
Voilà, c'est ça, ouais. Je suis tellement chaud.
Et donc, ça veut dire, a priori, une bêta un petit peu plus ouverte. Ils avaient dit qu'il y aurait une bêta ouverte en début d'année prochaine. Donc, j'imagine que c'est pour ça qu'ils ont publié tout ça. Alors, je pense que tu n'es pas le seul à être chaud pour le jeu, toi.
Oui, non, en plus, moi, c'est vraiment. Ils reviennent à l'ambiance de Diablo 2, un peu greedy, un peu sombre comme ça et tout. Jeuxvideo.com a fait une preview aussi que j'ai lu. Enfin, c'est le côté open world, je demande à voir, mais je suis quand même assez confiant sur celui-là.
Donc voilà pour Diablo. Et entre Overwatch 2, World of Warcraft, même des trucs qui se passent sur Hearthstone et Diablo qui risque d'arriver, bon bah les choses bougent. Chez
2023 va être pire que 2022, c'est ça, en termes de bons jeux vidéo.
C'est possible, c'est possible. Je serais bien content si ça ne bénéficie plus à l'ami Kotick, mais on verra.
Kotick, ouais.
Enfin, à vrai dire, on le pointe du doigt, lui, mais il y en a sans doute d'autres aussi. Mais bon, bref, peu importe. Fortnite, le chapitre 4 a commencé. Et au-delà du changement de chapitre, qui est toujours un événement chez les fans de Fortnite, il y a surtout le passage à Unreal Engine 5, qui rend le jeu, évidemment, beaucoup plus beau, assez impressionnant graphiquement, et l'arrivée de Geralt et du Doomguy dans Fortnite. En plus de ça, Epic a annoncé les comptes pour enfants, qui sont des sortes de comptes subordonnés aux comptes de parents, et tu peux contrôler s'ils peuvent acheter, etc. etc. Donc, Fortnite chapitre 4. Je ne sais pas si vous avez vu les images de Fortnite sous Unreal Engine. C'est marrant parce que ça reste complètement Fortnite. Ce n'est pas du tout photoréaliste, évidemment. Mais c'est quand même beaucoup plus beau que ça n'était sur Unreal Engine 4. Donc, je dis Unreal Engine 4, c'est 5, hein, bien sûr. Donc, sur Unreal Engine 4, et c'est très, très beau. Donc,
L'UE5 est vraiment une tuerie, hein. Enfin... Il y a tellement de jeux là annoncés qui tournent sur Unreal Engine 5, notamment les prochains CD Projekt et tout. Hein, c'est un moteur qui est une puissance hallucinante.
Mais quand est-ce que les jeux arrivent ? On nous en parle depuis 3 ans, là. C'est bon.
Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai qu'il y a eu très peu de jeux sortis sur Unreal Engine 5 qui sont déjà sortis, je suis en train de me dire.
Ça va arriver en 2020.
Mais l'année prochaine, ça va commencer à arriver.
Mais est-ce qu'on aura les cartes graphiques derrière pour wink wink?
Mais je crois que le jeu n'est pas si gourmand que ça en plus. Hein.
Non,
le jeu, le moteur, il bah, y a eu la fameuse démo de Matrix, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur PS5,
bien sûr.
Qui était une démo technique, hein, mais qui tournait plutôt bien en plus, tu vois.
C'est ça. Ça tournait à 30 FPS. Le matériel, il est prêt. Sur les consoles, ça va. Il est prêt. Et puis, si tu as une 3070, on va dire, ça va, tu vas avoir des bénéfices quand même, quoi.
J'ai une 960, tu sais, donc je suis plus trop dans ce débat.
Alors là, peut-être que ça va être un petit peu difficile. T'as une Xbox Series X et une PlayStation 5. Donc,
J'ai une PS5, j'ai plus de Xbox, je me suis pas assez servi de ma précédente. Donc,
d'accord.
Bon. Mais oui, avec ma PS5, ça va.
Voilà.
Mais je fais encore tourner pas mal de jeux avec ma 960. Typiquement, Cyberpunk, j'ai réussi à le faire tourner sur ma 960.
Disons que Unreal Engine 5, je sais pas si tu en verras beaucoup de bénéfices avec une 960. Ouais. C'est ça le problème.
C'est clair. Bah, puis, je pense que l'enjeu aussi pour eux, c'est justement de réussir à faire mieux avec des performances, de meilleures performances sur des machines moins gourmandes. Enfin, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, quoi.
Oui, de meilleures performances sur sur des machines pas très puissantes. Je sais si tous les bénéfices, genre les trucs à la Nanite, Lumen, etc., les trucs qui font plus de géométrie, plus de ray tracing, qui n'est pas vraiment du ray tracing, mais qui est quand même du ray tracing. Tu vois ces trucs-là qui sont les bénéfices principaux. Bon, peut-être que, écoute, il suffit que tu lances Fortnite saison 3 ou 4, chapitre 4, et tu vas voir. Tu peux tout de suite le faire. Vas-y, fais-le. On te demande ton avis dans 5 minutes. OK. Deux petites annonces. Amnesia The Bunker, qui est un nouveau jeu Amnesia. C'est pas toi qui aimais bien les jeux Amnesia, Chica?
Et si, j'adore Amnesia Rebirth, le dernier était super, et donc moi je suis très content de voir un nouvel épisode.
Ouais, donc c'est un peu pour toi que j'ai mis cette news, c'était soit toi, soit Trinity, les jeux d'horreur super angoissants qui font...
Oui. À chaque fois que j'écoute un podcast avec elle, à chaque fois je finis par acheter un de ses jeux. Hein. des jeux qu'elle recommande. Là, j'ai acheté Father's Day, là, je sais pas quoi, là, il était à 1€ en solde, je dis vas-y, je le prends, je l'ai pas fait encore, mais voilà.
Bon, bah vous serez comment dire, vous entendrez bien dans l'émission GOTY qu'on fera dans quelques semaines.
Oui, possible, ouais. Possible qu'on ait les mêmes jeux, peut-être.
Et puis, il y a aussi une petite vidéo sur le Project L, le jeu de combat de Riot, qui, franchement, n'apprend pas énormément. Enfin, si, mais c'est des trucs un peu techniques. Et que dont je parle parce que moi j'aime bien les jeux de combat et je suis très curieux de voir ce que va donner celui-là. Mais il détaille en fait le système de tag. Ils sont passés d'un système en 1 contre 1 en système en 2 contre 2. Donc on a deux personnages, on peut taguer in and out. Et ça a l'air quand même très technique et c'est intéressant qu'ils mettent l'aspect sur le point technique parce qu'il n'y aura pas vraiment de difficulté dans les manipulations. Donc il n'y aura pas de carte cercle, demi-cercle, etc. a priori. Mais par contre, la stratégie des combats risque d'être quand même... Donc, ça sera plus la stratégie que l'exécution qui semble être, sur laquelle ils semblent insister. Et à voir comme ça dans les démos qu'ils font, ça ressemble... C'est presque un Dragon Ball FighterZ en plus sage quand même, mais presque ça. Donc, à voir quand on n'a toujours pas ni de date, ni de quoi que ce soit, bien sûr. Quoi d'autre ? Quelques petites news donc rapides. Amazon a fait une update intéressante à Luna. Vous savez, c'est leur service de streaming qui existe aux États-Unis. Il y a plusieurs chaînes entre guillemets sur Luna et il y a une chaîne Ubisoft. Et donc pour jouer aux jeux Ubisoft, quand on est abonné à Ubisoft, comment ça s'appelle ? Ubisoft Plus, Ubisoft Max, il faut être abonné en plus à la chaîne Ubisoft sur Luna. Là, avec le changement, il suffit d'être abonné Prime, donc Amazon Prime, et on peut accéder à ces jeux en streaming, à ces jeux Ubisoft de l'abonnement en streaming. Et je trouve que c'est assez intéressant comme stratégie. Alors, Luna n'est pas encore en France, mais le jour où ils arriveront, ça pourrait être une alternative intéressante pour le streaming, parce que pour un truc comme Ubisoft, ça te permet de jouer sur toutes les consoles, les machines, et aussi en streaming, si tu es uniquement abonné Prime. Donc... Je voulais le mentionner. The Witcher, comment il s'appelait ? The Witcher, le truc, pas Amazon Go, mais Pokémon Go, c'est Monster Slayer, c'est ça, le Pokémon Go de Witcher, il va fermer ses portes. C'est le cinquième Pokémon Go-like qui ferme ses portes. Ça me fait penser à l'époque de World of Warcraft, où il y avait tous les World of Warcraft killers qui ont tous fermé leurs portes les uns après les autres. Bon, il y en a un ou deux qui restent encore. Mais c'est marrant comme personne n'a réussi à reproduire le miracle de Pokémon Go. Je me demande si c'est parce que Pokémon était particulièrement bien adapté à un jeu de ce type, à cause de la pandémie, parce que les gens ont joué à Pokémon, ils vont pas se remettre à jouer à d'autres jeux en plus, mais ils sont tous plantés pour le coup. Et Pokémon continue son succès, quoi.
Bah, puis une question de public, et je pense que Pokémon se prêtait vraiment bien à ce type de gameplay, le côté... tu faisais vraiment comme dans le jeu, t'allais courir dans les hautes herbes pour aller trouver tes Pokémon. Décliné sur The Witcher ou Harry Potter, moi, celui de The Witcher, j'en avais même pas entendu parler.
Ah oui On a dû le mentionner une ou deux fois ici, mais... Donc, il fermera ses portes le 30 juin. Il y a une update pour Mario Kart 8 Deluxe où on peut choisir les objets qu'on a dans la course ou pas. Genre, si vous voulez virer les carapaces bleues, vous pouvez maintenant, dans des parties custom, bien sûr.
Donc, j'ai vu des gens qui ont fait une partie qu'avec des carapaces bleues, et ça, ils ont vraiment aimé souffrir. Quoi.
Voilà, ça, c'est les vrais. C'est les vrais.
La course doit être tellement longue, parce qu'on passe trop de temps à te faire éclater. En fait. Ça va être interminable, horrible.
Elden Ring, il y a une nouvelle mise à jour qui débloque en fait les colisées, les grandes arènes qui étaient complètement bloquées. Moi, je me souviens que j'ai vu un truc comme ça et je me suis dit « Ah, mais peut-être qu'à la fin du jeu, je pourrais rentrer là-dedans. » Et j'y ai plus repensé et genre un an plus tard, je vois l'update. C'est enfin ouvert. Ah, d'accord, ok. Puis une autre mise à jour pour Vampire Survivors qui est disponible depuis quelques mois. Je me demande s'il ne va pas être dans la liste des GOTY. On a tendance à l'oublier, Vampire Survivor, mais bon, son DLC nous le rappelle à notre bon souvenir. Il coûte 1$, je crois, le DLC, ou 2$. Donc, c'est peut-être le moment de replonger dans Vampire Survivors. Halo Infinite, il y a aussi une grosse mise à jour pour le mode multi, qui continue son petit bonhomme de chemin, même si c'est quand même une petite déception, ce truc, mais peut-être qu'ils réussiront à revenir. Et puis, je voulais mentionner aussi Palworld. En fait, à chaque fois que Palworld met fait une mise à jour ou fait un trailer, je me dois d'en parler parce que ce Pokémon où les Pokémon sont maltraités et ont des armes et on s'en sert pour, je sais pas, électrifier. On les met dans des usines pour fabriquer nos armes, ça me fait tellement rire et en même temps c'est tellement mignon et bien fait. Je peux pas mettre le trailer là, je peux pas le regarder parce que sur Gamekult j'arrive plus à me connecter à mon compte. Je sais pas pourquoi, j'ai arrêté mon abonnement mais j'ai quand même mon compte, mais j'arrive pas à me connecter. Je sais pas si d'autres personnes ont le problème. Alors je sais pas ce qui se passe chez Gamekult avec la nouvelle direction et le départ des anciens. Mais je ne peux plus me connecter à mon compte. Alors peut-être
non, a priori, ça marche. A priori, chez moi, ça marche. Enfin, moi, j'ai fait comme toi. J'ai arrêté mon abonnement, mais j'ai toujours mon compte. Mais mon abonnement courait jusqu'à la...
Je ne peux pas me connecter. Quand je clique sur se connecter, ça me remet la même page.
Bon, okay. Je crois que j'ai le même souci que toi en essayant de me connecter hier.
Ah oui ? Bon, bah...
Je n'ai pas insisté. Je suis vite passé à autre chose. Je n'ai pas creusé.
Et bon, le trailer de Palworld était là-dessus. Donc, je ne le montrerai pas au stream. Désolé. Et puis, un petit mot pour signaler qu'avec le Game Pass, Skywalker Saga arrive sur le Game Pass en décembre. Donc, peut-être que moi, je vais y jouer avec mon fils. On va voir si ça peut le faire ou pas. Skywalker Saga, ça peut être marrant. Donc, si comme moi, vous attendiez qu'il soit un peu moins cher ou disponible quelque part pour y jouer, eh ben voilà, Skywalker Saga, il est dans le Game Pass en décembre.
Je l'ai acheté sur Switch la semaine dernière, tu vois. J'ai vraiment eu le pif sur ce coup.
En plus, sur Switch, je ne suis pas convaincu qu'il tourne super bien, mais bon.
En fait, c'était plus pour le côté de pouvoir éventuellement y jouer à deux. Je trouvais ça plus sympa que sur PC.
Tu sais qu'on peut, sur console, connecter deux manettes, hein, c'est possible.
Mais oui, mais moi, je n'ai pas la Xbox, Patrick. Donc
il
n'est
pas,
sur PC.
Elle a une 960.
Elle sort pas de joueurs, là.
Il ne sauvera pas le jeu.
Alors, je fais tourner Cyberpunk, j'espère qu'on ne va pas tourner Lego Star Wars, quoi. Non, mais c'était jouer en multi sur un PC, c'est toujours un peu moins sympa.
C'est vrai, c'est vrai. Avouons. Et puis je me moque de toi, mais je crois que j'avais une 970 quand j'ai lancé Cyberpunk pour la première fois, donc il est très bien tourné, donc comme quoi. Et puis on se moque souvent de Nintendo par rapport à l'e-sport. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont vraiment pris les choses en main avec C'était sérieux.
Le tweet de Kayane est quand même assez incroyable.
Kayane, qui est une e-sportive assez connue, qui a une personnalité de la scène du gaming versus, qui est généralement hyper consensuelle, elle est super cool, très gentille, etc. Généralement, elle est très consensuelle, mais elle n'a pas résisté. Nintendo a annoncé un Super Smash Bros. Ultimate European Online Challenge Winter Rumble 2022, le 9 décembre. Alors, c'est un challenge en ligne. C'est un truc dans le jeu lui-même. Donc, s'il n'avait pas fait annuler un championnat de Smash la semaine dernière, ça aurait peut-être pas fait autant de bruit. Mais ce qu'ils disent, c'est en gros, ils organisent un tournoi en ligne auquel n'importe qui peut participer. C'est le 9 décembre de 18h à 20h, donc vous pouvez y aller si vous écoutez cet épisode aujourd'hui, ça sera demain. Et c'est un tournoi en ligne, mais surtout, le truc, c'est qu'ils disent les 10 meilleurs joueurs, à l'issue du tournoi, remporteront chacun 2500 points or et les 90 suivants, 1000 points or, donc c'est genre 25€ et 10€ de cash prize.
Et en plus, que tu peux pas
en bon d'achat
ailleurs que sur, ouais, voilà, que sur store, quoi.
C'est ça.
Ils sont quand même à côté de la plaque.
Des cash prizes. Mais le truc, c'est que c'est pas un vrai tournoi. C'est pas genre un tournoi où ils appellent. Enfin, si, c'est un tournoi en ligne, mais dans le jeu, c'est un petit truc sympa pour faire gagner un petit peu de. Pour mettre de l'excitation dans le truc, quoi. Mais oui, 25 000 points or, c'est 25€. 1000 points or, c'est 10€. En bon d'achat seulement. Ça, c'est très mal timé par rapport à l'annulation du tournoi.
C'est ça, ça arrive dans le contexte d'un. Enfin, j'ai suivi cette histoire, qu'on en parlait tout à l'heure d'ailleurs de Silence on joue, le podcast, ils ont résumé l'affaire. C'est Corentin, je crois, Kokobé qui a fait ça, et il y a une histoire limite sordide avec cette histoire d'annulation de tournoi.
On en parlait la semaine
dernière.
Une
espèce de guerre là. Ah, tu en parlais la semaine dernière, voilà. Et c'est vrai que l'histoire est assez dingue, et là, ouais, mais de toute façon, Nintendo et l'e-sport, comme tu dis, hein, ça a toujours été compliqué, on va dire, quoi.
Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire marrante. Dernière chose, comme on le disait tout à l'heure, dans quelques heures, c'est les Game Awards, qu'on regarde peut-être un petit peu moins pour savoir qui sera le jeu de l'année. On sait tous que ça va être Elden Ring, mais peut-être les suivants, ça sera intéressant, les autres catégories.
God of War, hein. God of War, c'est chance hein, quand même.
Moi, je crois que c'est Elden Ring, c'est plié. Mais bon, on verra. Mais il y a aussi possiblement, et ça a l'air d'avoir un petit peu leaké, Star Wars Jedi Survivors qui sortirait a priori en mars, qui serait officiellement, enfin pas annoncé parce qu'il a déjà été annoncé, mais qui serait détaillé. Et ça a un petit peu leaké, mais du coup ça arrivera sans doute avec d'autres world premiere dans les Game Awards. Le truc à retenir de Star Wars Jedi Survivor, c'est que Cal Kestis n'a plus son poncho dégueulasse. Donc ça, c'est quand même une amélioration notable du jeu.
Ouais. Et apparemment, on parle d'un retour de Crash Bandicoot qui est annoncé aux Game Awards. Et ouais, et ça, vous ne l'avez pas vu venir.
Retour de Crash Bandicoot, ah oui.
Ouais, il y a eu Crash 4 qui est sorti, qui est super d'ailleurs, parce qu'en fait, le compte Twitter de Crash Bandicoot ou des développeurs, je ne sais plus, a dit oh, qu'est-ce que vous faites ce soir au Game Awards, genre wink wink, tu vois, on aura des annonces, donc il y aura probablement un nouveau Crash qui sera annoncé, ce qui est plutôt sympa en soi. Hein.
Ouais, non mais Crash 4 avait été très très bien reçu, et on avait tous été étonnés
c'est un bon petit jeu, ouais.
Qu'ils abandonnent la licence après ça. Moi, je pense qu'ils vont annoncer un remaster de Crash 4 pour... PlayStation 5.
Un patch HD, pas un patch 60
FPS. C'est ça, un patch HD, ouais. Un patch 60 FPS, un truc comme ça.
Alors, on va peut-être juste voir Geoff Keighley arriver en mascotte.
C'est possible. Non, mais voilà.
En faisant des tourbillons.
D'avoir Hideo Kojima dans la conférence, parce qu'il faut toujours qu'il y ait Hideo Kojima quand on voit Geoff Keighley ou que ce soit. Bah, tu mets Crash 4 dans Death Stranding, par exemple. Un costume Crash 4 Crash Bandicoot pour... comment il s'appelle machin Bridges.
Pour Norman Reedus.
Non, ouais, à la place du bébé. À la place du bébé, un petit Crash Bandicoot.
Oui, voilà, exactement. Exactement. Et comme ça, Kojima peut venir dire... Parce que la dernière fois, tu vois, il est venu dire qu'il avait fini de sécher son linge dans sa machine, qu'il n'avait pas grand-chose d'autre à dire, et ça avait fait... Ça s'était vu un peu, qu'il venait pour tout n'importe quoi. Donc là, il faut une vraie annonce. Ça me paraît crédible. Mais oui, plus sérieusement, Kojima sera a priori là. Il va montrer son nouveau jeu qu'il nous tease depuis quoi, 2 mois, quelque chose comme ça. Donc, a priori, on aura.
C'est un jeu d'horreur, non ? Il veut, je sais plus. Il part sur un jeu d'horreur, il me semble.
Ça, il semblerait, mais on ne sait pas trop.
Semblerait, ouais. Yes.
Eh bien, écoutez, je pense que c'est tout pour notre épisode. On va peut-être faire un petit after show où je vais passer en revue la liste des 50 meilleurs jeux de l'année avant notre GOTY selon Polygon. Donc, c'est juste pour avoir une liste des 50 meilleurs jeux de l'année. Et puis, pour se rappeler, se rafraîchir un petit peu la mémoire, pour se souvenir des jeux qu'on a oubliés, etc. Mais pour les gens qui ne sont pas patriotes et qui n'ont pas l'after show, c'est la fin de cet épisode, mais on va évidemment donner l'occasion à Escarina et Jika de nous dire où on peut les retrouver. Commençons par Jika, notre invité exceptionnel pour cet épisode. Où te retrouve-t-on, dis-moi ?
Quelle gentillesse. On me retrouve sur en podcast, hein, toujours dans ZQSD, podcast jeux vidéo qui parle de PC. On a fait un podcast hors série spéciale là, qui est sorti il y a 2 jours sur le magazine Joystick, puisque à l'époque, Corentin et moi, Walou et moi, on travaillait et plein de gens dans l'équipe, on a travaillé sur Joystick et on est revenu sur les 10 ans en fait, du dernier numéro de Joystick. Donc on dévoile tous les coulisses de la presse d'il y a 10 ans. Vous allez voir, il y a des trucs incroyables.
Il est publié déjà, faut que j'aille écouter ça.
Ouais, c'est publié. On en parle assez pendant une heure. On parle de Joystick et du dernier numéro, donc c'était assez cool. Et le prochain numéro, on l'enregistre normalement bientôt, très très bientôt, la semaine prochaine. Donc on va pouvoir parler de plein de jeux. Je pense qu'on va revenir sur les Game Awards et sur les jeux de la fin de l'année. Quoi. Voilà.
ZQS2 numéro 18, le dernier Joystick avec JK et Walou, magnifique.
Voilà, vous pouvez y aller.
Et on aura le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission. Escarina, où es-tu sur Internet ?
Sur Internet, je suis sur Twitter, Escarina_. En ce moment, je mets du coup beaucoup de photos de bière sur mon Instagram aussi, pour ceux que ça intéresse, en story, tout ça. Vous retrouverez la bière de ce midi que j'ai bu en votre compagnie de la façon la plus silencieuse possible.
Ah, mais on s'en est pas du tout aperçu en fait. Très, très bien.
Et je fais la même chose de façon beaucoup moins silencieuse chez Super Gamerside. Donc, on est sur une bonne lancée en ce moment. Là, on fait notre petite émission par mois. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Papa Noël, puisque les fêtes approchent. Donc voilà. Et puis, chez toi, tous les deuxièmes jeudis du mois.
Tout à fait.
Et très bientôt pour l'émission spéciale.
Dans les notes de l'émission. Oui, l'émission spéciale, normalement, ça sera le 22. C'est comme ça qu'on a prévu ça, à midi et demi aussi, donc le jeudi 22, pour le rendez-vous jeu spécial GOTY 2022. Alors, il y aura tout le monde. C'est Everyone is here, normalement. Tous les invités réguliers. Et vous allez voir que ça fait du monde. Donc, on sera là pour le 22. Mais avant ça, il y aura d'autres épisodes classiques, évidemment. Donc, on se donne rendez-vous dans une semaine. Moi, je suis Note Patrick, un petit peu partout. Vous avez les liens vers tout ce que je fais dans les notes de l'émission. Le Discord, où on se retrouve entre amis, on s'amuse bien. Le Twitch, pour voir les émissions le jeudi midi et le rendez-vous tech le mardi midi. Les replays sur YouTube, si vous les ratez en live. Et puis, bien sûr, le Patreon, patreon.com/rdvjeux, pour soutenir l'émission financièrement avec des sous-sous. Si vous dites que vous buvez un petit peu trop de bière, vous en sautez une par semaine, et puis vous pouvez envoyer les sous au rendez-vous jeu à la place. Ça paraît être une bonne idée, un bon compromis. On vous fait de gros bisous et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous et à toutes. Bisous.